Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma recherche.
Aujourd'hui, nous recevons Valère Ndjor, enseignant-chercheur au LabLex, pour l'ouvrage qu'il a dirigé et qui vient d'être publié, Le Dictionnaire de l'actualité internationale. Que veulent dire les mots ou les formules déplorer, féliciter, impasse, zéro tolérance, quand ce sont des représentants d'État qui les prononcent? De quoi parlent-ils quand ils évoquent une crise, une guerre ou quand ils invoquent la démocratie? Ces mots ont-ils le même sens quand ils sont repris dans des tweets ou dans des journaux? Bonjour Valère Ndjor, vous êtes chercheur au LabLex et vous enseignez le droit international et le droit du numérique à l'UBO.
Oui, c'est bien ça, bonjour.
Donc vous avez publié le Dictionnaire de l'actualité internationale. À qui s'adresse cet ouvrage?
Alors cet ouvrage s'adresse à un public extrêmement large, du moins c'est l'objectif, à la fois à des étudiants qui peuvent être issus du droit, de la science politique, des étudiants en journalisme. On vise également des professionnels tels que les journalistes, les personnes qui s'intéressent aux activités diplomatiques, et de manière plus générale, le grand public, donc toute personne qui s'intéresse à l'actualité internationale, à la géopolitique ou aux relations internationales.
Le point de départ du dictionnaire est un blog. Comment passer d'un blog à un dictionnaire de 600 pages? Est-ce que vous pourriez décrire la genèse de cette publication?
Bien sûr. Alors, le blog, c'est un blog que j'avais créé lorsque j'étais en doctorat, qui s'appelle « Le droit international expliqué à Raoul », qui fait d'ailleurs cette année ses 10 ans, c'est pas une coïncidence. Et un blog que j'avais créé de façon anonyme d'ailleurs. Ce blog abritait à la fois des publications individuelles et collectives. Et donc en 2014, avec un groupe d'amis, nous avions élaboré un dossier qui s'appelait, il me semble, le guide du langage diplomatique approprié. D'accord. Et donc on avait envisagé certains des termes qui apparaissent aujourd'hui dans le dictionnaire, tels que déplorer, regretter, condamner ou autre. Et de façon beaucoup plus humoristique qu'on l'a fait aujourd'hui avec le dictionnaire, on avait envisagé des explications sur le sens de ces termes lorsqu'ils sont utilisés dans la sphère internationale. Et donc voilà, ce dossier a eu beaucoup de succès. Et 2-3 ans plus tard, donc en 2017-2018, j'ai commencé à envisager la possibilité de faire quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus collectif avec cette démarche liée donc à des termes qui apparaissent souvent dans l'actualité internationale. Et donc voilà, c'est ainsi comme ça que le projet a évolué.
Et d'ailleurs, le blog est toujours en ligne, hein?
Le blog est toujours en ligne, il est beaucoup moins alimenté faute de temps, même si à la faveur du confinement, j'ai eu l'occasion d'écrire deux, trois billets. Mais il existe toujours et donc on va pouvoir fêter ses 10 ans dans quelques semaines.
On peut peut-être dire aussi qu'il y a un peu plus de liberté sur le blog, c'est-à-dire il y a un peu plus peut-être d'humour, ou il y a moins la contrainte universitaire de la publication d'un dictionnaire.
Alors, il y a moins un contrat universitaire, il n'y a plus d'anonymat. Bon, l'anonymat a été au bout d'un moment devenu un secret de polichinelle, donc j'ai assumé complètement et mon nom apparaît, mais mon nom et ma fonction apparaissent sur le blog. Mais c'est sûr que je n'écris pas la même chose sur le blog que dans un article de presse ou dans un article académique. Il y a plus de liberté, plus d'humour et puis parfois même des gifs animés, des mèmes. Voilà, l'idée, c'est de se faire plaisir aussi.
Alors cet ouvrage rassemble 300 termes et expressions. Comment vous avez dressé la liste de ces entrées? Quels étaient vos critères pour les choisir?
Alors c'est un travail qui s'est fait en plusieurs étapes. Dans un premier temps, j'ai travaillé un peu tout seul dans mon coin, essentiellement entre 2017 et 2018, et j'ai établi progressivement une liste de termes qui apparaissaient fréquemment dans l'actualité internationale. Quand je parle d'actualité internationale, je fais référence à la fois à la presse écrite, à la radio, la télévision, tweet, etc., etc. Et ça m'a amené à définir une liste d'à peu près 200 entrées. Okay. À partir de là, il a fallu que je m'entoure de personnes pour m'aider, parce que c'est une entreprise que je ne pouvais pas mener seul. Et donc, j'ai créé un conseil scientifique composé, sauf erreur de ma part, de 8 ou 10 enseignants-chercheurs et praticiens francophones, et deux assistants pour m'aider à faire le travail, qui était assez lourd. Et avec eux, pendant plusieurs semaines, on a peaufiné cette liste. Ils m'ont proposé des mots à ajouter, on en a retiré, on a fusionné certaines entrées, et on est arrivé finalement à environ 300 mots, qui ne sont pas nécessairement des mots juridiques. Au contraire, ce sont des mots, à la fois des mots juridiques, mais aussi des mots qui n'ont pas véritablement de signification réelle. Voilà, la cour de la haie, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est une expression qui est souvent utilisée. Les fake news, et donc voilà. on a défini cette liste en s'appuyant essentiellement sur l'actualité des 20 dernières années.
D'accord. Alors, chaque notice commence par une citation extraite d'un média, une agence de presse, un quotidien, un hebdomadaire, presse française ou étrangère. Enfin, en langue française.
Toujours en langue française, ouais. Oui.
Chaîne de télévision, de radio, et il y a même Wikipédia. Est-ce que vous avez délimité un corpus de médias avant de travailler, si vous l'avez fait comment vous l'avez fait, ou ça s'est fait un peu comme ça, via... C'est peut-être les rédacteurs eux-mêmes qui ont défini ce corpus, finalement. Comment ça s'est fait, ouais.
Alors, on avait donné une directive aux auteurs, et sur ce point-là, le comité scientifique était assez d'accord, c'est qu'on voulait que ce soit un projet francophone. Donc, il fallait que les citations soient soit françaises, soit traduites en français. Donc, on a très peu de cas où les notices commencent par une citation qui est en anglais, et même lorsque c'est le cas, elle est traduite. Donc ça, c'était la principale directive. Ce qu'on avait aussi demandé aux auteurs, dans la mesure du possible, c'est de faire en sorte que les citations de départ soient des citations dites autorisées, issues de journaux ou de médias autorisés. Oui. Donc, il ne s'agissait pas simplement de prendre une citation issue du premier blog sur lequel on tombe en circulant sur Internet et d'utiliser cette citation alors que cette citation ne se prête pas forcément à l'analyse. Il fallait aussi que la citation soit relativement brève, 4 à 5 lignes, et puis surtout, il fallait que l'auteur de chaque notice puisse préciser d'où était issue la citation, donc à la fois le média, la date, l'auteur, et donc voilà, on a fini par développer ce canevas, et évidemment, il fallait que ça soit... c'est plus une interdiction absolue, il ne fallait pas que cette citation soit une citation... académique, universitaire. Donc il ne fallait pas que ce soit issu d'un livre de droit international ou d'un ouvrage scientifique.
Oui, votre but, c'était d'inscrire le travail dans la pratique elle-même, quoi, dans la pratique des journalistes, des diplomates, etc. Ouais.
Oui, exactement. C'est le dictionnaire de l'actualité internationale, donc il fallait partir de l'actualité.
Telle qu'elle est pratiquée, oui. Ouais. Donc alors, pourriez-vous préciser l'anatomie d'une notice et bon, éventuellement les consignes données aux auteurs? Par exemple, avez-vous édité une charte éditoriale?
Ah oui, une charte éditoriale a été définie. Chaque notice fait à peu près une page et demie, hein, en format de logiciel de traitement de texte. Elle commence, comme cela a été indiqué, par une citation, donc médias, culture populaire. Donc parfois, ça commence par une citation issue d'un roman, d'un film ou autre. Et ensuite, l'idée est que l'auteur, en s'appuyant sur une variété de références issues des médias, va essayer d'expliquer dans quel contexte une expression est utilisée et va essayer de décrypter un peu cette utilisation pour déterminer si cette utilisation est conforme à un certain nombre de canons scientifiques, si le terme est utilisé de façon rigoureuse ou pas, s'il y a un biais politique ou autre. Par exemple, moi j'ai traité parmi les notices que j'ai rédigées la notice multilatéralisme. C'est une notion qui a été employée à de très nombreuses reprises au cours des dernières années. On a parlé de héros du multilatéralisme pour qualifier le président Emmanuel Macron. On s'est demandé si Donald Trump allait enterrer le multilatéralisme. Ouais. Et donc voilà, en utilisant plusieurs citations de presse, essayer d'expliquer de quelle manière le terme est utilisé et de déterminer si cela correspond à une réalité juridique, géopolitique ou non.
D'accord. Donc là, on a l'anatomie des notices, on sait ce qu'on veut faire, mais on réunit des personnes. Alors comment avez-vous réuni les personnes impliquées dans l'aventure? Bon, il y a un comité scientifique, mais aussi les rédacteurs, il y a du monde, hein, vous êtes une centaine, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais. On est 106 auteurs issus de 12 pays francophones ou non francophones d'ailleurs.
Oui, c'est énorme. Alors comment faire réunir tous ces gens, comment voilà, c'est un sacré réseau quand même. Et quels métiers, disciplines et expertises ont été mobilisés pour, dans ce travail de rédaction du dictionnaire?
Alors, comment je les ai sollicités? J'ai envoyé beaucoup trop de mails. La plupart des personnes qui ont participé à cet ouvrage sont des personnes avec lesquelles j'ai déjà eu l'occasion de travailler. Donc, soit on fait partie des mêmes réseaux, soit on a eu des opportunités de collaboration. C'est même souvent des gens avec lesquels j'ai fait ma thèse quand j'étais en doctorat. Même des personnes qui ont participé au blog de façon anonyme et qui étaient contentes de pouvoir revenir de façon un peu plus officielle. Donc, si je devais estimer ça à la louche, je dirais que je connaissais déjà 90% des auteurs, de près ou de loin. Et un certain nombre d'auteurs m'ont été recommandés par des membres du comité scientifique ou par les auteurs eux-mêmes, parce que parfois il nous manquait des personnes et on me disait telle personne serait disponible. Et en ce qui concerne les fonctions, les statuts représentés, c'est très varié. On a à la fois des universitaires et des praticiens. Et lorsque je dis universitaire, c'est vraiment tout le spectre universitaire, à savoir à la fois des maîtres de conférences, professeurs, des doctorants, des ingénieurs de recherche. Et puis du côté des praticiens, on a à la fois des gens qui sont avocats, qui sont juges. On a même des anciens directeurs juridiques de certaines organisations internationales qui ont rédigé des notices sur l'organisation internationale dans laquelle ils ont travaillé.
Oui, d'ailleurs, il y a les chercheurs du LabLex. Le LabLex est bien représenté par ces chercheurs et par des doctorants aussi. Hein.
Oui, effectivement. On a Michael Laven, Ilsa Rojas-Utenel, Peran Pluinek, qui, je crois, est déjà passé sur cette antenne. Donc voilà, le LabLex est représenté.
Oui, Peran, dans l'histoire de ma thèse, oui. Pour finir sur la fabrication même de l'ouvrage, avant de peut-être passer à l'usage, comment avez-vous procédé pour choisir l'éditeur de l'ouvrage et puis y a-t-il eu des allers-retours avant la version finale ?
Alors, il a évidemment fallu faire un pitch de l'ouvrage, parce que l'idée, c'est que dans un premier temps, j'ai sollicité les auteurs, vu que je savais à peu près ce que je voulais faire, donc il fallait avoir leur accord pour pouvoir définir ce à quoi allait ressembler l'ouvrage, comment il allait s'appeler. Donc ça a été un grand travail de préparation, et puis ensuite est arrivée l'étape, et ça c'était en début 2018, de sollicitation des éditeurs avant de commencer à rédiger à proprement parler. Et nous avons fini par décider de travailler avec les éditions Pédone, qui sont une maison d'édition spécialisée en droit international et relations internationales, avec laquelle j'ai déjà eu l'occasion de travailler, pas tellement en tant que directeur d'ouvrage, mais plutôt en tant qu'auteur. Et il a fallu donc que je pitche à celle qui allait devenir mon éditrice, il a fallu que je pitche le projet, donc en lui présentant un peu la structure, les notices, le nombre d'auteurs. Et évidemment, c'est difficile pour un éditeur de se positionner sans avoir tous ces éléments-là, sans savoir qui va écrire dedans, à quoi va ressembler une notice, combien il y en aura, combien de pages va faire cet ouvrage. Et je suis très heureux parce que l'éditrice a accepté le jour même en me disant « Bon, voilà, vous pouvez vous mettre au travail. » Et puis, elle m'a dit « Bon courage, parce que je ne suis pas sûr que votre ouvrage sera fini dans les délais d'un an et demi que vous aviez indiqué. » Et en fait, si, on a tenu les délais. Mais ça, c'est parce que je suis un tyran.
Sûrement, parce que les dictionnaires, oui, c'est énorme. Je connais d'autres histoires de dictionnaires qui ont duré 25 ans. Dans l'histoire des dictionnaires, il y en a plein qui n'ont pas été achevés, etc.
Oui, mais la vie est trop courte. Là, je n'avais pas passé 25 ans sur celui-là. Je voulais garder du temps pour les éditions suivantes.
Un an et demi, bravo Valère. Alors l'usage maintenant, les usages évidemment de l'ouvrage. Alors moi je suis bibliothécaire et puis spontanément les bibliothécaires rangent les dictionnaires dans la catégorie des usuels, donc aux côtés des encyclopédies et autres ouvrages de fond appelés à durer et dont la consultation est fréquente. On voit bien, il y a les encyclopédies, dictionnaires d'anglais, Le Grand Larousse, etc. etc. Sur un tel sujet, donc l'actualité, le vocabulaire de l'actualité internationale, y aurait-il pas un risque d'obsolescence de l'ouvrage ?
Alors ce risque est manifeste, et d'ailleurs il s'est en partie réalisé, mais ça c'est pas du tout un problème, j'explique. L'ouvrage a été finalisé, en tout cas le manuscrit a été finalisé en mars 2020, et en principe l'ouvrage aurait dû paraître dans les mois qui ont suivi, à savoir soit juste avant l'été 2020, soit à la rentrée septembre 2020. Or, il s'est passé ce que tout le monde sait, à savoir qu'au moment où j'ai rendu le manuscrit, on a tous été confinés. Et donc, évidemment, l'activité éditoriale s'est retrouvée stoppée, y compris celle de mon éditeur. Et l'ouvrage est paru avec à peu près 6 mois de retard, ce qui est encore raisonnable, j'ai envie de dire, vu les circonstances. Ce qui veut dire que dans ce dictionnaire, il n'y a pas certaines entrées, telles que confinement, coronavirus, alors que même dans la préface il est fait référence au coronavirus, mais à ce moment-là on ne savait pas exactement vers où on allait. Mais ça c'est pas très gênant, parce que déjà je pense que c'est une entreprise qui s'inscrit dans la durée, donc on prévoit de faire une nouvelle édition tous les 2-3 ans en enrichissant à partir des événements des années écoulées. Et puis surtout les notices sont rédigées en tenant compte de l'actualité des 15-20 dernières années. Donc, les auteurs remontent généralement jusqu'à la fin des années 90. Ce qui veut dire que certaines notices n'ont pas vocation à être actualisées à chaque fois. Les idées qui sont développées seront tout aussi valides dans 6 mois qu'elles le seront dans 2-3 ans. Peut-être simplement qu'on actualisera certaines références à des médias qui seront plus fraîches et plus adaptées à l'actualité de l'époque. Mais voilà, on est dans une démarche dans la durée. Et oui, donc le risque d'obsolescence, il sera permanent, mais ça fait partie de l'exercice aussi.
Oui, en même temps, donc, l'ouvrage prend sa racine dans 20 ans d'histoire et sera réédité. Donc voilà, le passé et l'avenir sont... Le passé est là et l'avenir est déjà envisagé. Oui. Alors dans sa préface, un collègue, un camarade de recherche, Franck Latty... qui est professeur à l'Université Paris Dentaire, donc que vous connaissez, rappelle qu'à l'heure des réseaux sociaux, donc je le cite, hein, chacun est en mesure de délivrer un message médiatique sur l'actualité internationale, du citoyen lambda au dirigeant mégalomane. Bon, on peut voir qui.
On voit à peu près à qui il fait référence.
Voilà, on voit qui le cite. Et il précise que dans ce contexte, votre ouvrage fait, ouvrez les guillemets, œuvre sanitaire. Moi aussi, je le crois que c'est une œuvre sanitaire. Mais pourriez-vous préciser la nature de cette œuvre sanitaire ?
Alors, je suis toujours pas sûr d'avoir compris quelle était la pensée de Franck Lattig lorsqu'il a écrit cette préface. Et en plus, il a écrit cette préface au moment où la crise de la Covid commençait à se manifester. Donc, je me suis dit, c'était peut-être un mauvais jeu de mots de sa part en disant, voilà, sanitaire, tout ça, les gens rigoleront dans quelques années. Je pense que ce qu'il voulait dire, notamment en mentionnant le discours politique, à la fois dans les médias et sur les réseaux sociaux, c'est que très souvent, il y a des confusions qui sont relayées par des personnes qu'on qualifie assez souvent de personnes influentes. C'est une expression qu'on utilise souvent pour décrire des personnes qui ont beaucoup d'abonnés sur une plateforme de réseau social telle que Facebook et Twitter. Et le problème, c'est que ces propos peuvent parfois être considérés comme paroles d'évangile par les personnes qui les suivent et qui leur accordent leur confiance. Et donc, concrètement, on peut avoir de la désinformation sur certaines notions. Alors voilà comment fonctionne le Conseil de sécurité. Est-ce qu'il existe véritablement une différence entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe ? Et lorsque ces personnes influentes relaient des idées qui sont fausses, des notions qui sont fausses, même l'idée de fake news, de faits alternatifs, c'est un non-concept, mais ça a été sanctuarisé par un certain nombre d'acteurs politiques américains, eh bien, je pense que c'est la responsabilité, en tout cas c'est une responsabilité qu'on peut choisir d'assumer, des experts, pas uniquement des universitaires, hein, des experts, de ceux qui savent que d'aller vers le public, de sortir un peu des amphithéatres, des centres de recherche en disant « Eh, attention, ce terme est fréquemment utilisé, ne vous laissez pas avoir, voici ce que signifie ce terme et voici en quoi il s'agit ici d'un usage qui est erroné. » Alors, parfois on parle, ça fait penser un peu au travail qui est mené par un certain nombre de groupes tels que les surligneurs, les décodeurs et autres. Alors, je ne sais pas si on fait le même travail, mais en tout cas, nous, on a décidé les auteurs ont accepté de sortir un peu de la bulle universitaire, de la bulle de l'enseignement, pour aller vers le grand public et pour expliquer au grand public, aux journalistes, attention, ce terme est mal utilisé, on va vous expliquer pourquoi, et on va même vous donner des exemples pour montrer à quel point ce terme est mal utilisé, ce terme, cette expression. Donc c'est peut-être ça, l'œuvre sanitaire, c'est peut-être tout simplement un jeu de mots. Mais ça,
Non, moi je ne crois pas.
Je vais appeler Franck juste après pour en savoir.
Non, parce que moi-même, en tant qu'usager des dictionnaires, je l'ai consulté pour... Moi, ce qui m'intéressait, c'était le langage de comment la réprobation. Mm-hmm. J'ai vu toute la graduation que vous indiquez. Et c'est intéressant de rentrer comme ça dans le détail de l'usage de ces mots et vous les graduer. Et ça c'est vraiment bien. En fait, vous mettez à profit aussi votre identité de chercheur et d'enseignant pour jeter une lumière qui est claire. Non seulement enfin l'actualité, mais le vocabulaire de l'actualité, et donc l'actualité et la façon dont les mots sont utilisés.
Ouais. C'est sûr. Après, on n'est pas certain qu'on sera entendu, et puis je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas intérêt ni à nous écouter, ni à consulter cet ouvrage. Je ne suis pas sûr que toutes les personnalités politiques vont remanier leur discours en tenant compte du contenu.
Celui qui veut, il trouve le bouquin.
Celui qui veut pourra trouver l'information, ça c'est certain.
Et quand il entend quelque chose, voilà, il perçoit mieux les choses. Donc c'est en ça que c'est sanitaire, de mon point de vue, à moi. Alors, le langage diplomatique est politique, enfin, je l'affirme. C'est un langage de pouvoir, et donc c'est un langage qui a une vertu pragmatique, une vertu, comment on dit, le mot m'échappe, mais performative.
Performative, voilà.
C'est-à-dire ça agit. Donc ce langage a un lien immédiat avec l'action ou la revendication d'action. Mm-hmm. Est-ce que cette dimension a été prise en compte dans les notices ?
Alors oui, c'est vrai qu'on a un certain nombre d'entrées qui portent alors soit sur des institutions, soit sur des situations, la situation de crise, l'escalade, le théâtre des hostilités. Mais on a aussi toute une catégorie de termes qui sont, vous qualifiez tout à l'heure, je crois, de termes de réprobation, en fait, qui constituent des réactions
Vous pourriez m'en donner plusieurs, il m'échappe là.
Alors, ça va être déplorer, s'inquiéter, constater, condamner. Oui. J'ai failli aller jusqu'à vilipender, mais non, ça, on pourrait
l'utiliser pour s'adresser à son gamin.
Voilà, c'est l'échelle de la réaction à la mauvaise action ou au contraire à l'inaction d'un acteur tiers. Et donc, ce sont des expressions qui sont très fréquemment utilisées, alors à la fois par les États eux-mêmes, donc généralement par les chefs d'État et chefs de gouvernement, pour dire regardez, c'est pas très bien, vous êtes en train de maltraiter votre population, nous condamnons cette action. Ce sont des termes qu'on retrouve aussi de façon presque systématique dans les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale ou par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ce sont des termes qui ont quand même des conséquences juridiques parce que ces termes vont pouvoir permettre de déterminer, d'identifier la position d'un État par rapport à un comportement identifié, par rapport à une situation identifiée.
Oui, c'est pas un langage si flottant.
C'est pas un langage si flottant. Alors, moi, c'est quelque chose que je rêve de faire. Je rêve d'avoir sur le mur de mon bureau à la maison une espèce d'affiche avec une gradation des réactions pour montrer à quel point on est courroucé face à ce qui vient de se passer. Lorsqu'on déplore, on se dit, bon, c'est quand même pas très bien, c'est un comportement qui est tout à fait anti-libéral ou protectionniste, on déplore, mais on va pas non plus rompre les relations diplomatiques. Lorsqu'on condamne fermement, ça veut quand même dire qu'on considère que la situation est illicite ou proche de l'illicite. Et je trouve que c'était super intéressant justement de discuter avec les auteurs qui ont travaillé sur ces notices-là, parce que parfois, on se rendait compte que y a presque un risque d'empiètement entre s'inquiéter, déplorer.
Ah oui.
Et parfois, les auteurs disaient, mais non, déplorer, s'inquiéter, ça ne veut pas dire la même chose, regretter.
Ils ont discuté entre eux pour savoir, là, tu es sur ma notice, là, il y a une nuance.
Alors, on s'est posé la question, il y a des notices qu'on a fini par fusionner,
oui,
affirmer, réaffirmer, donc voilà, ça fait partie des choses qu'on a. Et au contraire, pour certaines notices, on a deux entrées. Par exemple, pour regretter, on a deux entrées différentes.
Donc, ah, d'accord.
Traité par deux auteurs, et on voit que les perspectives ne sont pas du tout les mêmes.
Ah bah j'irai voir. Ouais. On a vu comment il est fabriqué, l'ouvrage, on voit des usages. Peut-être on pourrait aller plus loin sur la relation entre, évidemment, le vocabulaire de l'actualité internationale, de l'actualité internationale et la diplomatie internationale. Et moi, c'est la question que je me suis posée immédiatement, parce que c'est une somme énorme. Hein. C'est un bouquin, il fait plus d'un kilo, il fait 300 entrées.
Je ne l'avais pas pesé.
je ne l'avais pas pesé non plus, mais enfin, c'est une somme qu'il faut avoir dans ses mains et pour voir le travail. La question que je me suis posée, moi, c'est pourquoi vous n'avez pas travaillé, pourquoi vous êtes limité au discours de l'actualité internationale et non pas sur les relations internationales elles-mêmes, puisque le vocabulaire conduit à s'interroger quand même sur les relations elles-mêmes, notamment sur la réprobation. C'est ma question. Pourquoi pas aller jusque-là, ouais.
Alors, pour une raison simple, c'est qu'en fait, il s'agissait vraiment d'un dictionnaire d'actualité internationale et notre base de travail, ce sont les médias. Et si on avait transformé ça en dictionnaire qui analyse de façon beaucoup plus objective et beaucoup plus académique certains termes de la géopolitique ou des relations internationales, de soft power, en fait, on serait allé sur le terrain d'ouvrages qui existent déjà et dont les auteurs ont fait un travail remarquable. Il existe déjà une variété de dictionnaires de la géopolitique, de dictionnaires des relations internationales, même de dictionnaires du droit international public. Et c'est vrai que cet ouvrage avait plutôt vocation à être un outil complémentaire. Alors déjà, pas nécessairement destiné à des experts, alors que souvent, le type d'ouvrage que je viens de mentionner sont plutôt destinés à des experts ou des étudiants en formation. Et puis surtout, d'inverser, comme on le disait tout à l'heure, la démarche, pas partir de la science pour aller ensuite vers l'explication d'un terme, mais plutôt de partir de l'usage d'un terme par les médias eux-mêmes pour ensuite essayer de décortiquer l'évolution de sens, la mutation de sens d'un terme qui, à l'origine, avait une définition très claire en droit, en relations internationales ou en géopolitique. Et c'est assez intéressant parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs journalistes ces dernières semaines, depuis que l'ouvrage est sorti, et que, dans le cadre de sa présentation. Et ce qu'on a pu constater, c'est que parfois, les journalistes, en tout cas c'est ce que certains m'ont dit, utilisaient certaines expressions par mimétisme, par exemple lorsqu'on utilise « Bruxelles », plutôt que de dire l'Union européenne. Lorsqu'on utilise ce type de terme, parfois c'est simplement par mimétisme. On ne se pose pas la question de la raison pour laquelle on utilise ce terme. Et c'est ça qui nous intéressait, en fait.
Oui, vous retournez tout le temps aux fondamentaux, que veut dire ce terme, je le prends au sérieux.
Voilà, et de le contextualiser surtout. On voulait le contextualiser à la lumière de la pratique des années 2000, en fait.
Toujours sur la relation avec la diplomatie, moi je me suis interrogé, je me suis dit que si j'étais chercheur en diplomatie, enfin je m'intéressais à la géopolitique tout simplement, je me disais qu'on pouvait, que quelqu'un qui s'intéresse à la géopolitique pouvait utiliser votre ouvrage en prenant comme point d'entrée le vocabulaire, donc un mot, une définition, un contexte d'utilisation, et le rapport de ce mot à la réalité entendu comme conséquence de ce qui a été dit. À un moment donné, j'utilise ce mot et je regarde, y a-t-il conséquence, y a-t-il eu sanction, ou y a pas eu, etc. Est-ce que votre ouvrage peut servir des géopoliticiens
Ça, ce serait l'idéal, hein, que les acteurs de la diplomatie, on serait ravis que le dictionnaire se retrouve sur les étagères de tous les ministres des Affaires étrangères, ambassadeurs et autres. Je ne sais pas dans quelle mesure ça se produira. Alors, c'est vrai que dans ce type de situation, on peut envisager deux choses, à savoir soit le scénario idéal, mais ça, j'y crois pas trop, à savoir que les acteurs de la diplomatie vont vérifier, vont avoir un moment de doute, peut-être des remords, se disent « attention, je vais peut-être pas utiliser ce terme. Qu'est-ce que ça signifie ce terme dans tel contexte ? Ah non, c'est quand même assez dangereux, j'avais pas réalisé que d'utiliser ce terme-là, l'escalade ou la crise, c'est un peu risqué, donc je vais corriger. »
Oui, le mot escalade est dangereux. Oui.
Voilà, le mot escalade, le mot crise est dangereux, le mot responsabilité. Alors, moi, ce que j'aurais plutôt tendance à imaginer, et je pense que vu le rythme des relations internationales, ce serait plus plausible, ce serait plutôt qu'on tente d'interpréter certaines déclarations politiques, certains discours, certains entretiens dans les médias en utilisant le dictionnaire. Et je pense que c'est là que ça peut devenir intéressant pour les étudiants et puis pour les personnes qui se forment un peu à l'actualité internationale, donc le journalisme, qui se forment à la géopolitique, de se dire, tiens, c'est intéressant, ce chef d'État, la chancelière allemande, le président des États-Unis, le premier ministre indien a utilisé ce terme. En tout cas, il a été traduit de cette façon-là. De quelle manière ce terme va-t-il être appréhendé par un lecteur français qui a des connaissances en droit international et en relations internationales ? Et puis surtout, c'est aussi pour ça que j'ai insisté pour que les auteurs utilisent des citations presse, est-ce que d'autres acteurs ont déjà utilisé ce terme ou cette expression dans le même contexte ? Est-ce que fake news, dans la bouche de Donald Trump, a la même signification que lorsque c'est utilisé par un candidat à l'élection présidentielle française de 2022 ? Pas nécessairement.
Oui, oui. Là, on imagine facilement une édition électronique qui permet des liens hypertextes, qui permet de renvoyer à des personnages, à des textes de loi éventuellement, à du passé, à une déclaration de l'ONU, etc. Quoi.
Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'avais envisagé, et puis je me suis rendu compte que j'avais qu'une seule vie. Donc je laisse le plaisir aux personnes qui prendront la succession. J'espère que ce dictionnaire me survivra. Et voilà, c'est enregistré, qu'ils se sentent libres d'en faire une version électronique. En tout cas, c'est pas moi qui le ferai, parce que j'ai réalisé que ce serait un travail considérable. Mais c'est une très bonne idée, et j'y ai pensé sincèrement.
Le message est lancé sur Radio U.
Et peut-être dans mon testament aussi, on verra.
Voilà. Encore une fois, l'ouvrage, moi, il m'a beaucoup intéressé. Il m'a fait me poser les questions. Et je me suis posé la question suivante. Le langage diplomatique est-il précis ou volontairement imprécis ou métaphorique, voire éculé, bon, à force d'être répété. Le rapport à la précision est intéressant. Après avoir écrit, avoir dirigé cet ouvrage, vous en pensez quoi de la précision du vocabulaire diplomatique ?
J'aurais tendance à dire que finalement, ce langage répond à tous ces qualificatifs, à la fois précis, large, opaque, rigoureux. En fait, tout va dépendre du locuteur, tout va dépendre du contexte. Et c'était ça aussi la difficulté de cet ouvrage, dans son élaboration, c'était de mettre sur le même plan, ou en tout cas d'analyser des variations de contexte entre une dépêche Reuters, agence France Presse, qui a été rédigée dans l'urgence, de façon à être efficace et de façon à être reprise par un certain nombre de rédactions. Et donc là, on ne va pas nécessairement chercher la précision, on va certainement chercher à reproduire des éléments de langage. Créer une dépêche d'information, c'est comme créer une espèce de structure en Lego. On sait qu'on a des éléments de couleur et qu'on peut les assembler de différentes façons, mais que concrètement, ce sont les mêmes Lego qui vont être utilisés. C'est sûr que la précision n'est pas forcément caractérisée dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, moi, je me suis amusé cette année, j'ai un cours de revue de presse internationale, je me suis amusé à faire réécrire mes étudiants donc, qui sont en humanité, je leur ai fait réécrire des articles, des dépêches, pour les faire transformer en articles, pour leur montrer justement la variation de sens. Et d'un autre côté, on ne pourra pas mettre sur le même plan une déclaration qui serait, par exemple, présentée devant l'Assemblée générale des Nations Unies, dans le Conseil de sécurité, parce qu'on sait que là, derrière, il y a des experts, il y a des porte-paroles, il y a des personnes dont le travail, c'est de rédiger les discours et de faire attention aux conséquences que pourraient avoir les termes utilisés dans ce discours sur l'Assemblée, sur les personnes destinataires qui l'écoutent. Et généralement, dans ces déclarations qui sont faites dans des enceintes internationales, il va y avoir beaucoup plus de précision, de rigueur, de précaution même, par rapport à l'utilisation de certains termes dont on sait qu'ils ont des conséquences en droit international.
Et c'est là qu'on revient sur la pragmatique, c'est-à-dire un énoncé, c'est un mot, et c'est quelqu'un qui dit ce mot, c'est un énonciateur, et c'est un lieu, un lieu d'énonciation qui donne pouvoir à l'énonciateur. Enfin.
Oui,
c'est un
ça.
Contexte d'énonciation.
C'est ça, et puis d'ailleurs, c'est même une idée qui a des ramifications en droit international. En droit international, on enseigne en troisième année la théorie des actes unilatéraux, à savoir ces déclarations qui vont émaner d'un chef d'État, d'un membre de gouvernement ou de certains ministres régaliens dont on estime qu'ils peuvent avoir des conséquences en droit international parce qu'ils sont ces termes, ces phrases, ces discours, ces positions sont adoptées par la bonne personne dans le bon contexte avec la visibilité suffisante, à savoir la visibilité médiatique nationale ou internationale. Donc finalement, on n'est pas uniquement dans une analyse qui vise à savoir quel est le positionnement politique de tel acteur ou de tel État. On se pose aussi la question de savoir si une déclaration, une position dans des médias nationaux ou internationaux peut avoir des conséquences juridiques. Et dans certains cas, elle peut en avoir.
Oui. Enfin bref, c'est un ouvrage très riche qui permettrait aussi de faire de la linguistique. On va terminer là-dessus parce que le temps tourne à toute vitesse. Vous avez réuni une équipe internationale de rédacteurs. Donc, de quel pays viennent-ils et quel est l'intérêt d'une approche multinationale ?
Alors, donc 12 pays, je pense que la liste ne me viendra pas à l'esprit, hein, c'est comme les 7 nains, je vais forcément en oublier.
Donc, il y a toute la francophonie, oui.
Il y a une grande partie de la francophonie, donc France, Belgique, Canada... La Suisse, je crois qu'on a un ou deux auteurs du Royaume-Uni. On a, et bon, quand je dis Canada, c'est Canada et Québec. Hein, je fais attention parce que je sais que je suis écouté par mes amis québécois et donc il faut que je précise. La Colombie est représentée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues faire leurs études de droit international en France et qui sont restées francophones et qui sont parties à assumer des fonctions. Et puis, il y a des personnes qui ne se rattachent pas particulièrement à un pays, mais qui ont plutôt travaillé dans une organisation internationale identifiée, ONU, Interpol, OCDE, donc, dont les anciens directeurs juridiques ont rédigé les...
Alors, pourquoi autant de monde ? Pourquoi autant de pays ?
Alors, pourquoi autant de monde ? Pourquoi autant de pays ? Parce que je voulais que ce soit un projet francophone et parce que je voulais éviter que le projet soit... franco-centré ou euro-centré. Oui. L'objet d'étude, c'est l'actualité internationale, mais l'actualité internationale francophone. Et contrairement à il y a peut-être 10-15 ans où on lisait principalement la presse nationale, parce qu'on n'avait pas encore accès à Internet, on ne pouvait pas si facilement lire la presse étrangère francophone. Aujourd'hui, concrètement, lorsqu'on va passer une dépêche, on va passer sur... je ne sais pas, France Info, sur Le Soir en Belgique, sur Le Soleil, oui. Le Temps. Et je trouvais que c'était intéressant d'inciter les auteurs à sortir un peu de leur bulle nationale et de s'interroger sur la perception de certains énoncés, de certaines positions à l'échelle francophone, à l'échelle internationale. Par contre, je ne voulais pas que les auteurs se sentent obligés, vu qu'on est une majorité de Français, je ne voulais pas que les auteurs non français se sentent obligés d'adhérer à une structure d'écriture, à une structure linguistique française. Donc j'ai insisté auprès des collègues belges, québécois et autres sur le fait qu'ils devaient écrire concrètement comme ils le font habituellement et que le lecteur serait averti qu'il y a une variété de nationalités qui sont représentées et donc forcément des variations dans les figures de style utilisées par des Français, par des Belges, par des Canadiens. Et ça se voit. Parfois, on passe d'une notice à une autre, on se dit « Ah, là, c'est pas quelqu'un qui vit en France qui l'a rédigé. »
Oui, on sent la variété des rédacteurs tout en ayant... Enfin, il y a quand même une cohérence très forte, mais... Il y a un collectif pluriel, comme les gauches plurielles autrefois.
C'est ça.
Dernière question cette fois-ci. Le retour des collègues, parce que là, il y a du monde. Il y a le retour peut-être de rédacteurs, mais vos collègues au Lablec, vos collègues ailleurs. Parce que les retours, pourquoi les retours ? Non pas pour se féliciter, encore qu'on peut se féliciter, comme on parle en diplomatie, mais pour peut-être la suite. Quoi. On peut imaginer l'exploitation de cet ouvrage et les conséquences que ça a sur le travail d'un chercheur comme vous, en fait.
Alors, à titre personnel, je pense que ça va me rendre un peu plus attentif à la lecture des journaux, au visionnage du JT, et puis à l'écoute de certains podcasts, certaines émissions de radio, parce que tout de suite, enfin, c'est limite si je n'ai pas un petit carnet de notes systématiquement sur moi en me disant, bah, tiens, tel mot pourrait être utilisé pour la prochaine édition. Donc c'est vrai qu'on écoute différemment, et ça peut même devenir un poids, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que d'une certaine manière, je n'arrive plus complètement à écouter de façon passive certaines émissions ou à lire certaines dépêches. Parce que je suis toujours en train de me dire, ah, est-ce que le mot a vocation à être décrypté plus tard ? Mais bon, ça, c'est...
Il faut éviter l'obsession aussi.
Il faut éviter l'obsession, mais bon, ça, à la limite, c'est une entreprise à long terme.
Moi, je pensais à des futures collaborations, peut-être, avec des gens que vous ne connaissiez pas avant de mettre en œuvre ce travail.
D'accord, oui. Alors, des futures collaborations, oui, ça, effectivement, ça, y a des opportunités qui se créent. Alors déjà, entre les auteurs eux-mêmes, tous ne se connaissaient pas. Donc, des auteurs qui n'avaient pas eu l'occasion de travailler ensemble se sont retrouvés à participer au même ouvrage. Donc, évidemment, ça, chaque auteur a rédigé entre une et six notices et donc peut susciter l'intérêt du monde académique. Voilà, vous avez travaillé sur ce terme-là. Et puis, en fait, ce serait bien que vous fassiez une présentation un peu plus riche dans le cadre d'une conférence. Et moi, pour l'instant, j'ai surtout l'opportunité de présenter cet ouvrage. Donc aussi bien dans les enceintes académiques que auprès de certains médias. Donc j'ai eu l'occasion de faire quelques passages médias pour présenter l'ouvrage à sa sortie. Et éventuellement, ça peut susciter des participations à des conférences, des publications. Donc voilà, le travail entraîne le travail généralement dans ce milieu.
Voilà, ben je vous souhaite une bonne suite à ce dictionnaire de l'actualité internationale. Merci Valéan Dior. Donc vous êtes enseignant-chercheur au LabLex. Dans le prochain numéro, nous recevons André Tepo, professeur émérite à l'IMT Atlantique. Il présentera le projet de recherche KERAL, alors K-E-R-A-A-L, qui porte sur la complémentarité du travail entre un kinésithérapeute et un robot pour la rééducation fonctionnelle d'un patient. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur la page des bibliothèques universitaires de l'UBO. Et bien sûr, vous pouvez trouver le dictionnaire de l'actualité internationale à la bibliothèque de l'UBO et dans toute bonne bibliothèque qui se respecte. Et dans toutes les librairies, j'imagine.
Qui se respecte aussi.
Qui se respecte aussi.
Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma recherche.